Pradel retourna à l'observation de son verre de fine, considérant pour la énième fois la stratégie à adopter. Pour fabriquer autant de cercueils, il faudrait sous-traiter avec pas mal d'entreprises spécialisées, ce qui était rigoureusement interdit par le contrat avec l'État, mais si tout se passait normalement, personne n'irait y voir de plus près, parce que tout le monde avait intérêt à fermer les yeux. Ce qui comptait, l'opinion était unanime, c'était que le pays dispose dans un délai décent de jolis cimetières peu nombreux mais très grands, permettant à tout un chacun de classer enfin cette guerre parmi les mauvais souvenirs. Et Pradel gagnerait en sus le droit de brandir son verre de fine et de roter en plein salon du jockey sans que personne y trouve à redire. Tout à ses pensées, il n'avait pas vu entrer son beau-père. C'est à la qualité du silence qu'il sentit qu'il avait commis une gaffe, un silence soudain et ouaté, frémissant, comme à l'entrée de l'évêque dans la cathédrale. Lorsqu'il le comprit, c'était trop tard. Rester dans cette position nonchalante en présence du vieux représentait un manque de déférence qui ne lui serait pas pardonné. En changer trop précipitamment, c'était admettre sa subordination devant tout le monde, le choix entre deux mauvaises solutions. À la provocation, Pradel préféra la vexation qui lui sembla la moins coûteuse. Il se déplaça vers l'arrière, aussi négligemment que possible, en balayant sur son épaule une poussière invisible. Son pied droit glissa jusqu'au sol. Il se redressa dans son fauteuil pour faire bonne figure et inscrivit mentalement cette circonstance sur la liste de revanches à prendre. Monsieur Péricourt avait pénétré dans la salle du jockey d'un pas lent et débonnaire. Il fit semblant de n'avoir rien remarqué du manège de son gendre et rangea cette occasion au rang des dettes à se faire rembourser. Il passa entre les tables, entendant ici et là une main molle de monarque bienveillant, lâchant le nom des présents avec une noblesse de doge. « Bonjour, cher ami !» Ah, Ballanger, ah, Frappier, vous êtes là. Bonsoir, Godard, risquant des traits d'humour à sa mesure. Mais c'est pas la maître de Chavigne, si je ne m'abuse. Et lorsqu'il arriva à la hauteur d'Henri, il se contenta de baisser les paupières d'un air entendu, un sphinx, et de poursuivre sa traversée du salon jusqu'à la cheminée, vers laquelle il tendit ses deux mains, largement écartées, avec une satisfaction exagérée. Quand il se retourna, il vit son gendre de dos. La position était délibérément stratégique. Ce devait être très agaçant de se sentir ainsi observé par derrière. À les voir manœuvrer l'un par rapport à l'autre, on devinait que la partie d'échecs à laquelle se livraient les deux hommes venait tout juste de commencer et annonçait bien des rebondissements. Entre eux, l'aversion avait été spontanée et tranquille, presque sereine, la promesse d'une haine au long cours. Chez Pradel, Péricourt avait immédiatement flairé la crapule, mais il n'avait pas résisté à l'engouement de Madeleine. Personne n'avait les mots pour le dire, mais il suffisait de les regarder ensemble une seconde pour comprendre qu'Henri la faisait très bien jouir et qu'elle n'allait pas s'en tenir là que cet homme, elle le voulait. Qu'elle le voulait terriblement. Monsieur Péricourt aimait sa fille, à sa manière bien sûr, qui n'avait jamais été très démonstrative, et il aurait été heureux de la savoir heureuse si elle n'avait pas eu l'idée imbécile de s'enticher d'un Henri d'Aulnay-Pradel. Richissime, Madeleine Péricourt avait été la proie de bien des convoitises, et bien qu'elle ne fût qu'agréable, elle avait été très courtisée. Elle n'était pas bête, la tête près du bonnet, comme feu sa mère, femme de caractère, pas le genre à s'emporter, à céder à la tentation. Avant-guerre, elle les avait démasqués de loin, les petits ambitieux qui la trouvaient banale vue de face, mais très jolie vue de dot. Elle avait une manière aussi efficace que discrète de les éconduire. Avoir été demandée en mariage plusieurs fois lui avait donné beaucoup d'assurance, beaucoup trop, car elle avait 25 ans lorsque la guerre s'était déclarée, 30 quand elle s'était achevée sur la mort de son jeune frère, deuil terrible, et entre-temps, elle avait commencé à vieillir. Ceci, peut-être, expliquait cela. Elle avait rencontré Henri d'Aulnay-Pradel en mars, elle l'avait épousé en juillet. Les hommes ne voyaient pas ce qu'il pouvait avoir de si magique, cet Henri, pour justifier pareil empressement. Il était pas mal, convenons-en, mais enfin... Ça, c'était les hommes, parce que les femmes, elles, saisissaient très bien. Elles regardaient cette allure, ses cheveux ondulés, ses yeux clairs, ses larges épaules, cette peau, mon Dieu, et comprenaient que Madeleine Péricourt avait eu envie d'y goûter et qu'elle en était revenue enchantée. Monsieur Péricourt n'avait pas insisté, bataille perdue d'avance. Il s'était contenté, prudent, d'imposer des limites. Chez les bourgeois, cela s'appelle un contrat de mariage. Madeleine n'avait rien trouvé à redire. Le beau gendre, en revanche, avait fait la gueule en découvrant le projet établi par le notaire de la famille. Les deux hommes s'étaient regardés sans un mot, mesure sage. Madeleine restait seule détentrice de ses avoirs et devenait copropriétaire de tout ce qui serait acquis après le mariage. Elle comprenait la réserve soupçonneuse de son père à l'égard d'Henri, dont ce contrat constituait la preuve tangible. Avec une pareille fortune, la prudence devient une seconde nature. À son mari, elle expliquait en souriant que ça ne changeait rien. Pradel, lui, savait que ça changeait tout. D'abord, il se sentit floué, bien mal récompensé de ses efforts. Dans l'existence de nombre de ses amis, le mariage avait tout réglé. C'était parfois difficile à obtenir, il fallait manœuvrer finement, mais quand on y arrivait, c'était le magot. Après, on pouvait tout se permettre. Or, pour lui, le mariage n'avait rien changé. Côté standing, ça, rien à dire. Il en profitait, c'était royal. Henri était un pauvre au train de vie démesuré. Sur sa cassette personnelle, il avait rapidement distrait près de 200 000 francs, aussitôt investi dans la réfection de la propriété familiale, mais il y avait tant à faire, tout s'écroulait, c'était un abîme. Henri n'avait pas trouvé la fortune, pour autant le coup était loin d'être raté. D'abord, parce que ce mariage mettait un point final à cette vieille histoire de la côte 113 qui l'avait un peu chagriné. Qu'elle ressurgisse, comme cela se voyait parfois pour des affaires anciennes qu'on croyait oubliées, ce n'était plus un risque, car maintenant il était riche, même par délégation, lié à une famille aussi puissante que prestigieuse, épouser Madeleine Péricourt l'avait rendu à peu près invulnérable. Ensuite, il avait accédé à un bénéfice colossal, le carnet d'adresse de la famille. Il était le gendre de Marcel Péricourt, intime de M. Deschanel, ami de M. Poincaré, de M. Daudet et de tant d'autres. Et il était très satisfait des premiers retours sur investissement. Dans quelques mois, il pourrait regarder son futur beau-père bien en face. Il baisait sa fille, il vampirisait ses relations, et dans 3 ans, si tout se passait comme il l'espérait, au jockey, il se vautrerait encore davantage lorsque le vieux entrerait dans le fumoir. M. Péricourt se tenait informé de la manière dont son gendre s'enrichissait. Pas de doute, ce garçon se révélait rapide et efficace. À la tête de 3 sociétés, il avait déjà réalisé près d'1 million de bénéfices nets en quelques mois. Sur ce plan, c'était un homme bien proportionné à son époque, mais M. Péricourt se méfiait instinctivement de cette réussite, trop verticale, sujette à caution. Plusieurs hommes s'étaient regroupés autour du notable, ses clients. Il n'y a pas de fortune qui naisse à court. Henri regardait son beau-père dans ses œuvres. Il prenait des leçons, admiratif, hein, pas de doute. Le vieux crabe savait y faire, quel aplomb. Il distribuait avec une générosité sélective les remarques, les autorisations, les recommandations. Son entourage avait appris à interpréter ses conseils comme des ordres, ses réserves comme des interdictions. Le genre d'homme avec qui Il est impossible de se fâcher quand il vous refusait quelque chose, parce que ce qui vous restait, il pouvait aussi bien vous le retirer. À cet instant, Labourdin entra enfin dans le fumoir, suant, son large mouchoir à la main. Henri réprima un soupir de soulagement, vida son verre de fine d'une traite, se leva et, le saisissant à l'épaule, l'entraîna dans le salon adjacent. Labourdin trottait à côté de Pradel en tricotant de ses grosses jambes courtes, comme s'il n'avait pas déjà suffisamment transpiré. Labourdin était un imbécile grandi par sa bêtise. Elle se manifestait sous la forme d'une ténacité exceptionnelle, incontestable vertu en politique, encore que la sienne ne fût due qu'à son incapacité à changer d'avis et à un total manque d'imagination. Cette stupidité était réputée pratique. Médiocre en tout, presque toujours ridicule, Labourdin était le genre d'homme qu'on pouvait placer n'importe où, qui se montrait dévoué, une bête de somme, on pouvait tout lui demander. Sauf d'être intelligent, immense bénéfice. Il portait tout sur son visage, sa bonhomie, son goût pour la nourriture, sa lâcheté, son insignifiance et surtout, surtout, sa concupiscence. Impossible de résister à l'envie de dire une cochonnerie, il braquait sur toutes les femmes de lourds regards de convoitise, notamment sur les boniches à qui il pelotait le cul dès qu'elles se retournaient, et il allait auparavant au bordel jusqu'à 3 fois par semaine. Je dis auparavant parce que, sa réputation s'étant progressivement étendue au-delà de l'arrondissement dont il était le maire, beaucoup de quémandeuses se pressaient à sa permanence, dont il avait doublé les jours, et il s'en trouvait toujours une ou deux disposées à lui éviter le déplacement jusqu'au Bobinard en échange d'une autorisation, d'un passe-droit, d'une signature, d'un coup de tampon. Ah ! Il était heureux, Labourdin, ça se voyait tout de suite. Ventre plein, couilles pleines, toujours prêt à en découdre avec la prochaine table, avec les prochaines fesses. Il devait son élection à une petite poignée d'hommes influents sur lesquels M. Péricourt régnait en maître. « Vous allez être nommé à la commission d'adjudication », lui avait un jour annoncé Pradel. Labourdin adorait faire partie de commissions, de comités, de délégations. Il y voyait une preuve de son importance. Et, imposé par son gendre, il n'avait pas douté que cette nouvelle nomination venait de M. Péricourt lui-même. Il avait enregistré, scrupuleusement, en les notant en grands caractères, les instructions précises qu'il devait suivre. Après avoir donné tous ses ordres, Pradel avait désigné la feuille de papier. « Maintenant, vous allez me foutre ça en l'air », avait-il dit. « Vous voulez pas non plus qu'on mette ça en vitrine au bon marché ?» Pour Labourdin, ça avait été le début d'un cauchemar. Terrorisé à l'idée de faillir à sa mission, il avait passé ses nuits à se remémorer les instructions une à une, mais plus il répétait, plus il mélangeait. Cette nomination était devenue son martyr, cette commission sa bête noire. Ce jour-là, il avait dépensé au cours de cette réunion plus d'énergie qu'il n'en disposait. Il avait dû réfléchir, dire des choses, il en était sorti épuisé. Épuisé, mais heureux, parce qu'il revenait avec la satisfaction du devoir accompli. Dans le taxi, il avait ruminé quelques phrases, selon lui, bien senties, parmi lesquelles sa favorite était « Mon cher ami, sans vouloir me vanter, je crois pouvoir dire Compiègne, combien ?» le coupa aussitôt Pradel. La porte du salon était à peine fermée que ce grand jeune homme au regard fixe le transperçait sans le laisser parler. Labourdin avait tout imaginé, sauf ça, c'est-à-dire qu'il n'avait pensé à rien du tout, comme à son habitude. « Bon, combien ?» tonna Pradel. Labourdin ne savait plus. « Compiègne !» Il lâcha son mouchoir, fouilla précipitamment dans ses poches, trouva ses papiers pliés en quatre sur lesquels il avait noté les résultats des délibérations. Compiègne, bégaya-t-il. Alors, Compiègne, voyons, voyons. Rien n'allait jamais assez vite pour Pradelle qui lui arracha la feuille des mains et s'éloigna de quelques pas, le regard tendu vers les chiffres. 18 000 cercueils pour Compiègne, 5 000 pour la chefferie de Laon, plus de 6 000 pour la place de Colmar, 8 000 pour la chefferie de Nancy et de Lunéville. Restait à venir des lots pour Verdun, Amiens, Épinal, Reims. Les résultats dépassaient ses espérances. Pradelle ne put réprimer un sourire de satisfaction qui n'échappa à la Bourdin. « Nous nous réunissons de nouveau demain matin, » ajouta le maire d'arrondissement. « Et samedi !» Il estima alors que l'instant de sa phrase était enfin venu. « Voyez-vous, mon cher ami, » mais la porte s'ouvrit à la volée, on appela « Henri !» Il y avait du bruit à côté, de l'effervescence, Pradelle s'avança. Au pied de la cheminée, à l'autre extrémité du salon, tout un groupe s'agitait. On continuait d'accourir d'un peu partout, de la salle de billard, du fumoir. Pradelle entendit des exclamations, fit encore quelques pas, les sourcils froncés, plus curieux qu'inquiet. Son beau-père était assis par terre, le dos contre l'appui de la cheminée, les jambes allongées devant lui, les yeux fermés, le visage cireux et sa main droite crispée sur son gilet, à la hauteur de la poitrine, comme s'il avait voulu s'arracher un organe ou le retenir. « Des selles !» cria une voix. « De l'air !» dit une autre. Le maître d'hôtel se précipita, demanda qu'on s'écarte. De la bibliothèque, le docteur arriva à grands pas. « Qu'est-ce qui se passe ?» Son calme impressionna. On fit place, le cou tendu pour mieux voir. Tout en prenant le pouls, Blanche disait « Eh ben, Péricourt, alors, qu'est-ce qui nous arrive ?» Et se tournant discrètement vers Pradelle, « Appelez une voiture, tout de suite, mon vieux, c'est sérieux !» Pradelle sortit rapidement. « Bon Dieu, quelle journée !» Le jour où il devenait millionnaire, son beau-père allait passer l'arme à gauche. Une chance pareille, c'était à peine croyable.